Laudetur Jesus Christus.
Audience générale ce matin à Place Saint-Pierre, le pape a centré sa catéchèse sur la prière des psaumes inspirés par l'Esprit Saint. On y revient en détail juste après les titres. Vladimir Poutine et Kim Jong-un, main dans la main. Au cours de sa visite officielle en Corée du Nord, le président russe et le dirigeant nord-coréen ont signé un accord fondamental renforçant la collaboration entre Moscou et Pyongyang. Les responsables de la cellule de coordination des actions de terrain en Nouvelle-Calédonie arrêtés aujourd'hui, ils sont accusés d'avoir organisé les émeutes qui ont dévasté ce territoire français du Pacifique. Et puis Luis Ignacio Lula da Silva veut aller plus loin dans la lutte contre la déforestation. Il a décidé de prendre de nouvelles mesures.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, audience générale du pape François. Donc ce matin, depuis la place Saint-Pierre, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'Esprit Saint. Il est revenu en particulier sur la prière des psaumes inspirée par l'Esprit et qui reste essentielle à notre vie de foi. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Comme in ogni sinfonia, vi sono in esso vari movimenti.
Telle une symphonie, les psaumes sont marqués par plusieurs mouvements, louanges, actions de grâce, supplications, lamentations ou réflexions sapientielles. Tous les livres de la Bible sont inspirés par l'Esprit Saint, mais le livre des psaumes l'est aussi en ce sens qu'il est rempli d'inspiration poétique, a remarqué le pape. Les psaumes sont importants car ils ont été la prière de Jésus, de Marie, des apôtres et de toutes les générations chrétiennes qui nous ont précédés. Et lorsque nous les récitons, a précisé François, Dieu les entend dans la grandiose orchestration qu'est la communion des saints. Le Saint-Père a rappelé ainsi que les psaumes restent essentiels à la prière des fidèles, une prière pour toutes les saisons, a-t-il précisé, et des textes qui ne perdent pas leur efficacité à force d'être répétés, bien au contraire, car ils renforcent la prière, ils respirent Dieu chaque fois qu'on les lit avec foi. Ces livres de l'Ancien Testament nous permettent enfin de nous ouvrir à une prière moins centrée sur nous-mêmes, a encore dit le pape. À travers la bénédiction et l'action de grâce, ils nous aident à être la voix de toute la création en l'associant à notre louange.
Coinvolgendolo nella nostra lode.
Olivier Bonnel. Et à l'issue de l'audience générale, le pape est revenu sur la journée mondiale du réfugié promue par l'ONU et qui a lieu demain. François espère que ce soit l'occasion de porter un regard attentif et fraternel à tous ceux qui sont contraints de fuir leur maison à la recherche de paix et de sécurité. Nous sommes tous appelés, a déclaré le Saint-Père, à accueillir, promouvoir, accompagner et intégrer ceux qui frappent à notre porte. Je prie pour que les États assurent aux réfugiés des conditions de vie humaines et facilitent les processus d'intégration. Autre appel en faveur du cher peuple chinois, je prie toujours pour ce noble et si courageux peuple qui est une culture tellement belle, a confié donc le pape François alors que l'on célèbre cette année le centenaire du Concile chinois de Shanghai. Un dernier mot en provenance du Vatican, c'est bien le 1er juillet prochain à 9h du matin que le pape François présidera au Vatican donc un consistoire ordinaire public pour la canonisation des bienheureux martyrs Manuel Ruiz López et sept de ses compagnons tués en 1860 au Levant, de Giuseppe Alamano, de Marie Léonie Paradis, canadienne fondatrice de la Congrégation des Petites Sœurs de la Sainte Famille, d'Elena Guerra, fondatrice elle des Sœurs de Sainte Zita et de Carlo Acutis, un fidèle laïc. Pour plus de précisions sur toutes ces informations, une seule adresse, bien évidemment, www.vaticannews.va. La Russie et la Corée du Nord, plus unies que jamais à Pyongyang. Pour deux jours, le président russe a affirmé ce soir que les deux pays n'accepteront pas le chantage et le diktat des Occidentaux, russes et nord-coréens étant tous deux visés par des sanctions internationales. Vladimir Poutine s'est exprimé après avoir signé avec son hôte Kim Jong-un un accord fondamental qui déterminera les relations entre les deux pays pour le long terme, ouvrant ainsi une nouvelle ère de prospérité entre les deux pays, dit le maître du Kremlin. À Séoul, les détails avec Clément Le Breton.
Kim Jong-un et Vladimir Poutine, debout côte à côte dans une voiture, quittant la place Kim Il-sung, devant la foule de Nord-Coréens en liesse. Les deux chefs d'État se sont rencontrés pour officialiser l'approfondissement de leurs relations. Si le contenu des accords et des discussions devrait rester confidentiel, Kim Jong-un a annoncé le renforcement stratégique entre les deux pays. Vladimir Poutine, quant à lui, remercie la Corée du Nord pour son soutien dans la guerre en Ukraine. En effet, Pyongyang aurait fourni des missiles et des munitions à l'armée russe. En janvier, un missile de confection nord-coréenne avait été retrouvé sur le front patron ukrainien. Kim Jong-un a lui apporté son soutien inconditionnel à la politique russe. Au-delà des discussions militaires, les deux chefs d'État ont aussi abordé les questions économiques et énergétiques. Vladimir Poutine a enfin exprimé son souhait de revoir Kim Jong-un à Moscou, cette fois, dans ce qui pourrait être la quatrième rencontre entre les deux chefs d'État, et une sortie rare du leader nord-coréen hors de son pays. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Et concernant la guerre en Ukraine, des drones russes ont endommagé des installations électriques la nuit dernière dans le centre et l'ouest du pays, ce qui ne va pas améliorer la fourniture d'électricité. L'opérateur Ukrenergo avait déjà prévenu hier que des coupures ponctuelles et ciblées seraient opérées aujourd'hui pour faire face à la diminution des capacités de production. Les élections européennes n'ont pas suspendu la vigilance de la Commission envers la bonne tenue des comptes publics des pays membres. À Bruxelles épingle ainsi 7 États, dont la France, ouvrant la voie à des procédures pour déficit public excessif. La décision pourrait être prise le 16 juillet prochain. C'est une étape importante dans la situation insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai dernier. 8 personnes ont été aujourd'hui interpellées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir commandité et organisé les exactions, incendies et pillages de ces dernières semaines. Et les charges qui pèsent contre elles sont lourdes. À Nouméa, les précisions de Jean-François Baudin.
Dès le début de l'insurrection, le parquet de Nouméa a ouvert une enquête sur l'origine de ces émeutes, car il est vite apparu qu'elles n'avaient rien de spontané et qu'elles avaient été préparées et orchestrées par la CCAT, la fameuse cellule de coordination des actions de terrain issue d'un des partis indépendantistes du FLNKS. La situation dans laquelle la Nouvelle-Calédonie a été réduite par quelques-uns demeure inadmissible et ceux qui l'ont encouragée devront répondre de leurs actes, a d'ailleurs rappelé Emmanuel Macron dans un courrier qu'il a adressé hier au Calédonien. Les charges qui pèsent sur ces 8 personnes interpellées, parmi lesquelles figure Christian Théin, le responsable de la CCAT, vont d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit, à complicité par instigation de meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle justifie un placement en garde à vue d'une durée maximale de 96 heures et les peines encourues, si les responsabilités sont avérées, peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Ces arrestations sont un coup dur pour la CCAT et ses éventuels donneurs d'ordre, même si certains craignent qu'elles ne soient l'occasion d'une nouvelle flambée de violence des militants de la CCAT qui voudront soutenir, voire venger leurs responsables, mais elles sont aussi la preuve que la justice a décidé d'aller jusqu'au bout. À Nouméa, Jean-François Baudin pour Radio Vatican.
C'est une nouvelle preuve de la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti. Le nombre de déplacés internes a augmenté de 60% depuis mars dernier. 600 000 personnes ont ainsi été contraintes d'abandonner leur maison en raison des exactions commises par les gangs, particulièrement à Port-au-Prince, la capitale. Des chiffres donnés par l'Organisation internationale pour les migrations. Au Brésil, Lula renforce la protection de la forêt amazonienne. Encouragé par la forte baisse de la déforestation dans la région depuis son retour au pouvoir, le président brésilien veut aller plus loin pour tenter de respecter sa promesse de déforestation zéro en 2030. Avec l'aide de la communauté internationale, de nouvelles mesures visant à combattre les organisations criminelles qui contribuent à la destruction de la forêt viennent d'être adoptées. Les précisions à Rio de Janeiro de Jean-Mathieu Albertini.
Profitant du démantèlement de la législation environnementale promue par l'ex-président Jair Bolsonaro, les gangs ont investi dans l'économie de la destruction de la forêt. Car en plus de rapporter gros, ces activités sont peu punies et permettent de blanchir de l'argent. Dans cette région immense et difficile d'accès, impossible de se confronter à ces groupes criminels sans équipement adapté. Et c'est justement ce que promet ce projet appelé Plan Amazon Sécurité et Souveraineté, notamment en finançant davantage de bateaux et d'hélicoptères. Un grand centre de coopération internationale où travailleront divers services de renseignement des pays amazoniens sera aussi installé à Manaus. Pour financer tout ça, 55 millions d'euros ont été débloqués par le Fonds Amazonie, une initiative internationale visant à protéger la forêt tropicale. Lula veut que tout cela soit vite effectif et appelle à plus de coopération internationale. Reste qu'en interne, il fait face à une grève des fonctionnaires des organes de protection de l'environnement qui exige une amélioration de leurs conditions de travail, notamment pour faire face à cette nouvelle criminalité en Amazonie. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. Et d'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook ou notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.